à Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes mercredi 14 mars 2018 au sommaire. Fin de la grève des enseignants qui a paralysé l'enseignement pendant des semaines en Guinée. Il y aura un second tour en Sierra Leone entre l'opposant Julius Mada Bio et le candidat du pouvoir Samora Camara. Inquiétude en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, avec de nouvelles violences intercommunautaires qui ont fait au moins 30 morts cette semaine.
Il y a cela deux jours à déplorer encore des morts. Toutes les autorités sont là en train de trouver une solution. Donc la situation n'a pas évolué dans le sens du bon. La situation est encore préoccupante.
Analyse sur la situation en Ituri dans la partie magazine. La Grande-Bretagne expulse 23 diplomates russes et suspend les contacts de haut niveau avec Moscou. Et puis les États-Unis, un mois après la fusillade dans un lycée de Floride, des élèves organisent des marches à travers le pays. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. En Guinée, les élèves retournent en classe. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et le gouvernement ont signé un accord qui met fin à un mois de grève dans les établissements scolaires et des manifestations. Zakaria Camara à Conakry.
C'est au soir d'une nouvelle journée de manifestation des femmes et des élèves à Conakry que les enseignants et les représentants du gouvernement, avec à leur tête le médiateur de la République, se sont de nouveau rencontrés. Contrairement aux précédentes, la rencontre du mardi a abouti à un accord. Plusieurs points ont été acceptés par le gouvernement. Il s'agit du paiement des 30% qui reste avec effet rétroactif. Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est rétabli dans ses droits. L'accord autorise l'annulation de sa suspension et le paiement de ses arriérés de salaire. Les deux parties s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour fait de grève. Concernant les salaires de base de 8 millions demandés par les enseignants, il a été décidé de la mise en place d'un comité paritaire syndicat-gouvernement en vue de l'ouverture d'un couloir de négociation à partir de début mai. La grève est suspendue, mais plusieurs écoles sont restées fermées à cause d'une manifestation à l'appel de l'opposition guinéenne. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
En Sierra Leone, l'opposition arrive légèrement en tête du premier tour de l'élection présidentielle et un second tour aura donc lieu le 27 mars. Le candidat de l'opposition, Julius Mada Bio, est donné favori. Le point avec Blanche Sanou.
La Commission électorale nationale a fixé au 27 mars le second tour de l'élection présidentielle. Le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Mada Bio, a légèrement devancé celui du parti au pouvoir, Samora Camara. Selon les résultats complets, M. Bio a obtenu 1 097 482 voix, soit 43,3%. Il devance de près de 15 000 voix le candidat du parti au pouvoir, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Samora Camara. Les observateurs avait salué le bon déroulement du premier tour et la participation massive des électeurs. Le président sortant Ernest Bai Koroma ne pouvait plus se représenter après deux mandats de 5 ans. Le bilan de son administration sortante est contrasté, même si elle est parvenue à attirer les investisseurs pour reconstruire le pays ravagé par la guerre civile. L'économie reste toujours fragile, 2 ans après l'épidémie d'Ebola et la corruption qui gangrène le pays.
Au Sénégal, le procès de 30 djihadistes présumés devant un tribunal de Dakar pour actes de terrorisme et financement du terrorisme a encore été renvoyé au 9 avril à la demande du parquet. Et puis la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours introduit par le Sénégal contre le refus de la justice française de procéder à la saisie des biens de Karim Wade. Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, avait été condamné le 23 mars 2015 au Sénégal à 6 ans de prison ferme, à plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite, ce qu'il a toujours nié, et à la confiscation de tous ses biens. Sous la pression des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU menace d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud. dans un texte qui sera voté demain et renouvela pour un an la mission de sa force de paix dans ce pays. Le projet de résolution souligne que le Conseil de sécurité est prêt à étudier toutes les mesures appropriées, y compris un embargo sur les armes pour priver les belligérants des moyens de continuer à combattre. Au Zimbabwe, les services d'urgence des principaux hôpitaux publics sont paralysés par une grève des médecins. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de travail. Les jeunes pratiquants ont été rejoints aujourd'hui par leurs aînés. À Maurice, la présidente Amina Gourib-Fakim a annoncé qu'elle ne va pas démissionner. Elle conteste les faits de corruption qui lui sont reprochés dans un scandale financier. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans un communiqué, la présidence a déclaré qu'Amina Gourib-Fakim rejette toute perspective de démission parce qu'elle n'a rien à se reprocher. Madame Gourib-Fakim dit être prête à aller en justice pour se défendre contre ces accusations de corruption qu'elle juge calomnieuses. Il lui est reproché d'avoir utilisé une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute pour effectuer des dépenses personnelles de 25 000 euros. La présidente mauricienne a reconnu les faits, mais affirme avoir remboursé l'argent utilisé et l'ONG a confirmé le remboursement des sommes concernées. Le premier ministre Pravin Jugnauth avait annoncé vendredi que la présidente allait démissionner après les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance qui ont eu lieu lundi et avant la rentrée parlementaire le 27 mars. L'affaire implique le milliardaire angolais Alvaro Sobrinho, un homme d'affaires controversé qui finance l'ONG Planet Earth Institute.
Le gouvernement comorien a dénoncé une stigmatisation de ses citoyens dans le mouvement social qui secoue l'île française de Mayotte dans l'archipel des Comores. Le département français de Mayotte est secoué depuis 4 semaines par un mouvement social contre l'insécurité et l'immigration clandestine en provenance de l'État voisin et pauvre des Comores à moins de 70 kilomètres. Les Comoriens qui vont à Mayotte ne sont pas des coupeurs de route ou des violeurs. Ils y vont pour du travail ou pour des soins, a déclaré le ministre comorien de l'Intérieur, Mohamed Daoudou.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mercredi une série de sanctions contre la Russie, dont l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux. Elle estime que Moscou est coupable de l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur le sol britannique. Le point avec Bagassi Koura.
Les 23 diplomates expulsés ont une semaine pour quitter le territoire britannique. Theresa May a aussi annoncé la suspension de tous les contacts bilatéraux de haut niveau. Elle s'exprimait devant le Parlement 10 jours après l'empoisonnement à Salisbury d'un ex-espion Sergei Skripal, âgé de 66 ans, et de sa fille Yulia, 33 ans, victime d'une attaque avec un agent innervant militaire de fabrication russe. L'ambassade de Russie à Londres a aussitôt dénoncé un acte hostile, inacceptable et injustifié. Le Kremlin clame son innocence, disant qu'il n'admet pas les accusations sans preuve et les ultimatums de Londres.
Ici aux États-Unis, des dizaines de milliers d'élèves ont quitté leur salle de classe pour exiger des mesures concrètes contre les armes à feu, une initiative qui intervient un mois après la fusillade de Parkland en Floride qui avait fait 14 morts. Clermont Gibourg.
Ils étaient des centaines de collégiens et de lycéens à s'être ainsi rassemblés devant la Maison Blanche à Washington. Protéger notre avenir, pas les armes à feu, ou encore les prières, cela ne suffit pas, pouvait-on lire sur les pancartes brandies. À travers tout le pays, des élèves et des étudiants se sont réunis pour la National School Walkout, qui veut rendre hommage aux 17 victimes de la tuerie de Parkland en Floride il y a un mois. Alexander Bovie, un lycéen de 16 ans de Bethesda dans l'état du Maryland, est lui aussi venu. Il espère, comme ses camarades, faire avancer la législation sur les armes à feu, interdire les fusils d'assaut et empêcher les sénateurs et les représentants de pouvoir bénéficier de l'argent de la NRA, le lobby américain des armes. La NRA est une des cibles de la manifestation des étudiants. Les pensées et les prières n'arrêtent pas les balles, peut-on lire sur un panneau brandi par une adolescente.
L'Iran réagit au limogeage du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran a déclaré que la décision de Donald Trump de se séparer de son chef de la diplomatie montre que les États-Unis sont déterminés à quitter l'accord sur le nucléaire avec Téhéran. Si les États-Unis quittent l'accord nucléaire, nous l'abandonnerons aussi, a-t-il prévenu. Le commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan a conseillé aux talibans de participer au pourparlers de paix proposé fin février par le président afghan Ashraf Ghani. C'est probablement le meilleur moment pour eux de tenter une négociation car cela ne va cesser d'empirer pour eux, a indiqué le général John Nicholson. L'administration de Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur les importations chinoises équivalents à 60 milliards de dollars, taxe qui vise notamment les secteurs de la technologie et des télécommunications selon des médias américains. Les tarifs cibleront une centaine de produits chinois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakizar qui nous présente la Minute Éco.
Le Rwanda et la Tanzanie ont convenu une ligne ferroviaire électrique au lieu d'un chemin de fer pour locomotive diesel en vue de relier Kigali et Isaka. Le changement de conception permettra de gagner sur le temps et les coûts de transport des passagers et marchandises. Le projet va coûter 2,5 milliards de dollars. Les réserves de change de l'Angola en 2017 ont baissé de plus de 36%, d'après la Banque nationale d'Angola, et représentent plus de 13 milliards de dollars. L'accroissement de la sortie des devises pour assurer les paiements courants du gouvernement et de la dette extérieure est à l'origine de cette situation qui frappe l'économie du pays. Pour amortir le choc, la Banque centrale a décidé de faire flotter la monnaie nationale, le kwanza. Addis Abeba et Moscou renforcent leur coopération dans les secteurs de l'énergie, le tourisme et l'éducation. Un centre de recherche sur le nucléaire sera construit en Éthiopie. Les étudiants et les diplomates éthiopiens vont bénéficier des bourses d'études pour une formation de haut niveau. Pour booster le tourisme, une ligne directe entre Moscou et Addis Abeba sera rétablie. Enfin, la Russie a promis d'annuler la dette éthiopienne de 162 millions de dollars.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdulrahman, bonsoir à tous.
Les derniers huitièmes de finale ce jeudi.
Le FC Barcelone, revenu d'Angleterre avec un précieux match nul, un but partout, accueille Chelsea à 19h45, temps universel. Chelsea qui avait terminé la première manche frustrée par l'égalisation de Lionel Messi en fin de rencontre. L'autre match de la soirée, c'est bien évidemment le Bayern Munich face à Beşiktaş. On se souvient que les Allemands avaient sèchement battu 5-0 les Turcs, notamment grâce à deux doublés, celui de Thomas Müller et de Robert Lewandowski au match aller. A priori donc, les Munichois qui n'ont pas grand-chose à craindre sur la pelouse de Beşiktaş.
Manchester United chute en huitième de finale de la Ligue des Champions.
Eh oui, mauvaise nouvelle, incapable de battre le FC Séville en deux confrontations. Le club anglais de Manchester United a été éliminé hier soir. Une défaite 2-1 à domicile, c'est une grosse désillusion pour le club entraîné par José Mourinho qui rêvait d'un meilleur destin après avoir attendu 4 ans pour revenir dans la prestigieuse compétition. C'est Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé pour les Andalous, qui a douché les espoirs des Mancuniens qui avaient réduit le score par Romeo Lukaku. Dans l'autre rencontre de la soirée, le club italien de la Roma s'est qualifié en battant l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk 1-0. Le but à l'extérieur, marqué au match aller par les Romains, leur a permis de se qualifier.
Sanction pour l'étoile sportive du Sahel.
Le club tunisien qui jouera ses 3 prochaines rencontres à domicile à huis clos, c'est ce qu'a décidé la Ligue tunisienne suite aux incidents survenus dimanche lors de la réception du club africain. Il s'agit des rencontres face à Kairouan, au CO Medellin et d'un troisième match, celui en Coupe de la Tunisie selon le tirage au sort, soit au début de la saison prochaine.
On termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Russell Westbrook est devenu le 4e joueur dans l'histoire de la NBA à atteindre le chiffre de 100 triple-double avec 32 points, 12 passes décisives et 12 rebonds lors de la victoire de son équipe à Atlanta, 119 à 107. San Antonio a retrouvé des couleurs face à Orlando, corrigé 108 à 72. Au sommet de la conférence Est, Toronto a connu une petite frayeur face à Brooklyn avant de signer sa 9e victoire de suite, 116 à 102. Et puis LeBron James et Cleveland qui ont retrouvé le sourire en écœurant Phoenix, 129 à 107.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les violences interethniques en Ituri soulèvent des inquiétudes sur la tenue des élections prévues pour décembre. Le député Grégoire Lusenge de l'opposition met en garde le pouvoir de prendre ces violences pour prétexte en vue de reporter les élections. Eddy Isango a interviewé un analyste et auteur d'un livre sur ces violences, Nikese Kibelbel Oka.
La situation n'a presque pas évolué, sinon elle a évolué négativement parce que il y a cela deux jours à déplorer encore des morts. Toutes les autorités sont là en train de trouver une solution. Donc la situation n'a pas évolué dans le sens du bon. La situation est encore préoccupante.
Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui les violences interethniques reprennent alors que tout était réglé avec même l'intervention de la CPI?
Le problème n'avait pas été bien réglé parce que vous citez la CPI a fait un peu de l'équilibriste. On a pris dans chaque communauté une ou deux personnes, on les a amenés comme dans une sorte de quota, on les a amenés à la CPI sans pour autant chercher les racines du problème. Et les racines du problème sont restées les mêmes. C'est comme ça qu'il suffit, c'est comme un chat séché, il suffit seulement d'un mégot de cigarette et tout s'enflamme. Mais il y a aussi un autre problème. Du fait qu'on refuse de voir les vrais problèmes, tout le monde vit comme si des les gens sont venus d'ailleurs pour créer l'insécurité. Parce que la situation de tout le temps, c'est toujours « Ah, il y a des gens qui viennent nous manipuler ». Mais le vrai problème, on n'a jamais résolu le problème qui est à la base, qui sont à la base des affrontements. On fait comme une sorte de pansement. Le problème est d'abord dans la cohabitation des communautés.
Mais ces violences ont lieu alors qu'il y a une présence des autorités sur place, en plus de l'armée et de la MONUSCO.
Nous sommes dans la série de, si je peux, si des guérillas urbaines, des guérillas rurales et des asymétriques. Les forces armées de la démocratie du Congo, le casque bleu, ils viennent dans une guerre conventionnelle. L'ennemi qu'ils trouvent sur le terrain, c'est des miliciens, c'est des gens qui maîtrisent le terrain, qui ont des armes blanches, qui ont aussi des armes à feu. Mais la tactique ou la stratégie utilisée par les FARDC et la MONUSCO ne répondent pas à l'insécurité, à la violence qui est dans l'est de la RDC.
Un député, M. Grégoire Lusenge, met en garde, tire la sonnette d'alarme pour que ces violences ne puissent pas servir de prétexte en vue de reporter les élections.
La violence, elle n'a rien à voir avec les élections qui vont arriver parce que cette violence, même s'il y a élection demain, cette violence ne cessera pas tant qu'on ne trouvera pas les causes, tant qu'on n'aura pas à la racine des mots. Donc cette lecture, c'est une lecture légère, c'est une lecture superficielle. Depuis les années 90, nous sommes dans la violence, notamment à l'Est. Il faut trouver des solutions. C'est vrai que la faillite de l'État contribue à créer ces zones grises, mais le problème est fondamental.
C'était l'auteur et analyste Nikese Kibelbel Oka.
Cette semaine, dans Washington Forum, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les partis ont jusqu'à la fin du mois pour déposer le nom des plateformes politiques qui vont se présenter, mais déjà, des candidats ont fait part de leurs ambitions présidentielles. Après plusieurs reports, le vote est prévu le 23 décembre 2018, soit deux ans après la fin théorique du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Dans l'attente de ce scrutin, les manifestations interdites persistent en dépit de la répression. Qui sont les candidats qui représentera le parti au pouvoir? Le calendrier électoral peut-il être respecté? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guriec avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA.
En République centrafricaine, la montée des accidents de circulation inquiète. Depuis 2017, plus de 4000 personnes ont été victimes à Bangui et à l'intérieur du pays. Cette situation dramatique fait réagir les autorités centrafricaines et leurs partenaires. Reportage de Freeman Sipila.
Dans les rues de Bangui, il ne se passe plus un seul jour sans qu'un accident de circulation ne soit enregistré. Ces tragédies, pour la plupart fatales, continuent d'endeuiller des familles. En dehors de la capitale, l'axe le plus réputé pour ces accidents est la route nationale numéro 2 qui mène au Cameroun. Dans la localité de Bouali, à 98 km de Bangui, la colline de Kassango a déjà pris des milliers de vies. Le dernier drame en date s'y est produit fin février et a occasionné 12 morts. Ces accidents sont dus à majorité aux excès de vitesse, aux surcharges et au non-respect des règles de conduite, ce que déplore Robert Yamou, sous-préfet de Boali.
Je vous donne un cas très récent de ce qui s'est passé à Boali, où il y a eu des cas de mort horribles à voir. Un véhicule grand châssis en provenance du Cameroun a eu à charger des sacs de ciment et sur le haut des gens arrivés à Kassangwa à la descente. Il y a eu prise d'air, il y a eu surcharge. Qu'est-ce que le chauffeur a fait? Prise d'air, surcharge, le chauffeur tranquillement par terre a pris l'attention, il a eu un choc, il est parti. Les gens étaient dans les radars. Des têtes coupées, des ceci, des cela.
En l'absence des bus de transport en commun sur les axes hors de la capitale, les passagers sont obligés de grimper sur des gros camions de transport de marchandises. Conséquence de cette pratique, un nombre élevé de morts pendant les accidents. Le gouvernement mis en cause promet des solutions dans les jours à venir. Ange Maxime Kazagui, son porte-parole.
Le pays, dans sa situation actuelle, en tant que pays, n'a pas réussi à mettre en place un système de transport public des personnes. Même les pays qui se portent bien, aujourd'hui, dans la plupart des pays en Afrique, le transport public des personnes par des sociétés d'État n'a fait que faillir. Je sais depuis quelques jours qu'il y a des discussions avec des partenaires privés qui, en partenariat public-privé, souhaiteraient mettre en place des sociétés de transport public.
Pour réduire la fréquence de ces drames, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a lancé le 5 mars une vaste campagne de sensibilisation et de formation sur le code de la route à Bangui. L'opération cible les conducteurs de taxis, taxi-motos et bus, ainsi que les élèves. Hervé Verroussel, directeur de communication à la MINUSCA.
La seconde phase de la campagne permettra de former ou de sensibiliser plus de 1000 conducteurs de taxi-motos, 750 conducteurs de taxis et bus dans les 8 arrondissements et les 2 communes de Bangui. Comme je vous l'ai dit, la MINUSCA en profitera pour organiser une campagne interne. Pour ce qui est des écoliers, car ils sont très exposés aux accidents de la circulation et surtout à la sortie des écoles, il sera organisé des sensibilisations dans 25 écoles de Bangui.
En 2017, plus de 4000 accidents de circulation, dont plus de 2500 impliquant les mototaxis, ont été recensés à Bangui et dans certaines villes de la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Mali, au moins 25 civils ont été tués en une semaine dans le centre du pays, dans des affrontements intercommunautaires. La communauté Peul pointe du doigt les Dogons. Bagassi Koura a joint à Mopti Mamoudou Bokoum.
Actuellement, la situation se détériore en ce moment où je vous parle, puisque il y a toujours des affrontements spontanés sur des points bien précis dans le centre du Mali, notamment vers Kourou, vers le cercle de Kourou, entre la communauté Peul et la communauté Dogon. Tout cela est dû à donc une altercation entre ces deux communautés qui est causée par l'incendie de quelques greniers et des cases d'un village Dogon qui s'appelle Tardé dans la commune de Dungani, dans le centre de Kourou. Et en riposte, les Dogons sont partis dans les villages Peul pour prendre leur revanche. Donc la situation est grave en ce moment. Et pour les responsables Peul, ce sont donc des armes de guerre que les Dozo Dogons détiennent contre la communauté Peul. Et selon quelques responsables, ils ont été armés par l'État. Et du côté de l'État, on demande toutes ces allégations faites par les responsables.
Que dit le gouverneur de la région ou que dit le gouvernement?
Les allégations selon lesquelles c'est l'État qui a armé des milices avec des armes de guerre, des kalachs notamment. Et cette thèse a été démentie par le gouvernement à travers le ministre de la Sécurité. Mais le gouverneur de la région de Mopti, quand même, face à la situation, a sorti un communiqué qui précise que seules les forces de défense et sécurité maliennes ont pour mission régalienne de défendre le territoire national, celle de population, de défendre les intérêts de la population et bien sans considération de leur sexe, ethnie, race et religion. Par conséquent, toute personne en possession d'armes de guerre sera purement et simplement désarmée des forces et traduite en justice, poursuit le communiqué du gouverneur. Donc c'est pour vous dire combien les armes sont en train de circuler dans la région de Mopti.
Oui. Est-ce que la tension est toujours palpable?
La tension est palpable parce que du côté de Koro, il n'y a plus de route entre Djougani et vers la frontière burkinabé. Donc, les gens ont peur de partir vers ce côté. Et du côté dans le delta intérieur du Niger, dans les zones exondées, au centre, plus précisément à Kwakuru, un village non loin de Kwakuru qui s'appelle Kwa, il y a eu également des affrontements entre les Dozo et la communauté Peul là-bas, toujours pour vraiment, selon les Dozo, c'est pour défendre leurs intérêts. Donc la tension est palpable un peu partout. La tension qui a commencé vers le Seno, la zone exondée, s'est transportée actuellement dans la zone inondée, et plus précisément à Kwa. Donc il faut prendre des dispositions très rapides pour éviter le pire.
C'était Mamoudou Bokoum, joint à Mopti, dans le centre du Mali.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Au Nigeria, à quelques mois des élections générales dans le pays, les jeunes veulent faire entendre leur voix. Des centaines de personnes ont manifesté à Abuja ce mercredi pour demander au président Buhari de signer le projet de loi qui donne l'opportunité aux jeunes de se présenter à tous les postes électifs, alors que les moins de 25 ans représentent 50% de la population du Nigeria. À Abuja, le reportage du correspondant de VOA Afrique, Gilbert Tomba.
Ils étaient plusieurs centaines de jeunes dans les rues de la capitale fédérale du Nigeria pour exiger du président nigérien Muhammadu Buhari la signature du projet de loi Not Too Young to Run. Ce projet adopté par le Sénat il y a quelques mois permet désormais aux jeunes de se présenter à la présidence de la République dès l'âge de 35 ans, ce qui n'est pas possible actuellement. Yetunde Bakari fait partie d'un réseau de jeunes au Nigeria.
Les piliers de la démocratie, c'est l'inclusion et la participation. Si plus de 50% de la population n'est pas impliquée dans le processus de prise de décision, ce n'est pas la démocratie. Donc je suis là avec les jeunes pour demander au président de signer le projet de loi Not Too Young to Run. Ce projet parle les jeunes et pour les jeunes.
Aujourd'hui, il faut 40 ans minimum pour être candidat à la magistrature suprême au Nigeria. Si les jeunes obtiennent la signature du président Muhammadu Buhari, cela signifie que les jeunes nigériens pourraient désormais se présenter à la présidence de ce pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi être gouverneur d'un État ou encore devenir sénateur à l'âge de 30 ans. Tom Agbo est le président du groupe du Parlement des jeunes africains.
Nous n'avions pas encore bénéficié d'une grande opportunité. Nous ne sommes pas impliqués jusqu'ici. Parce que nous ne parlons pas encore d'une seule voix. Le problème était jusqu'ici à notre niveau. Depuis longtemps, nous soutenons nos grands-pères ou bien un programme qui pourrait couvrir tout le monde.
Avec l'adoption de cette réforme, des personnes âgées de 25 ans pourraient légiférer dans les assemblées nationales et étatiques à travers le pays. Malgré le niveau élevé du jeu politique dans ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes Nigériens se disent confiants de leur inclusion dans le processus électoral. Michael Chukwu Ebuka Okoye est membre du Conseil national de la jeunesse nigérienne.
Oui, comme nous voyons les choses, la lutte contre la corruption et le combat pour le développement, ce n'est pas seulement une lutte physique, mais il faut utiliser les connaissances. Et nous, les jeunes, nous avons la mémoire fraîche et la force pour développer le Nigeria. Je suis sûr et certain que nous sommes déterminés à faire bouger ce pays.
À ce jour, en plus du Sénat nigérian, 25 États sur les 36 qui composent le Nigeria ont adopté le projet de loi comme le demandait la Constitution du pays avant la signature du président. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Georges Léonard Sagno à la console Dan Crafton. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Et dans une poignée de secondes, retour sur l'actualité avec Henri Francis. Au revoir.
Afrique.